vue d'ensemble de l'actualité.
Nos écoles sont et seront sécuritaires. Les classes fermées, ça cause des problèmes d'apprentissage, ça cause des problèmes de santé mentale. On a eu des conversations avec l'Association des pédiatres qui nous implore, je pense à juste titre, de réouvrir les écoles aussitôt qu'on le pourra. La rentrée, elle est prévue pour lundi, le 17 janvier, en présence.
Trêville PM.
Le ministre de l'Éducation, la semaine passée, et c'est confirmé, enfin, ce sera à 15 heures, mais c'est clair, là. On recommence lundi à l'école, en classe. D'abord, je veux juste dire, là, petite parenthèse sur le sujet précédent, c'est bien le docteur Vincent Oliva. Oliva, je l'ai mal prononcé, je m'excuse auprès de lui. Je referme la parenthèse. Jean-François Roberge faisait référence à l'Association des pédiatres qui souhaite le retour des élèves en classe. La docteure Marie-Claude Roy est pédiatre. Elle est membre, justement, du conseil d'administration de l'Association des pédiatres. Docteur Roy, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Vous êtes heureuse?
Soulagée, oui. Très soulagée. Je pense qu'on donne à nos enfants ce qu'on leur doit bien, c'est-à-dire un retour à la vraie vie. Ils en ont besoin. Et à ce stade-ci, en dépit de la cinquième vague, peut-être même encore plus en raison de la cinquième vague, on devait se poser cette question-là collectivement. On devait réaliser qu'après deux ans, trois années académiques escamotées pour les enfants du primaire, du secondaire, ben, en fait pour tous les gens scolarisés, là, mais il y a des enfants qui ont fait la moitié de leur primaire avec une scolarisation interrompue.
Oui.
C'est énorme, ce sont les bases de leur éducation. On a des adolescents qui vont avoir passé maintenant la moitié de leur adolescence à être privés de tous les liens sociaux, toutes les activités qui font qu'ils se construisent comme adolescents. Donc, oui, je pense que c'était le moment de dire, je vous écoutais avant la pause, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est temps qu'on change les paradigmes, il est temps qu'on change la façon de gérer cette pandémie-là. On entame la deuxième phase, je pense, et les critères qui seront évalués vont changer nécessairement. On ne peut pas gérer ça de la même façon.
Alors, Dr. Roy, vous m'avez peut-être entendu dire, là, demander aux auditeurs de me dire s'ils sont d'accord ou pas. Jusqu'à maintenant, j'ai presque 600 parents, là, grosso modo, ça doit être des parents, qui me répondent. Et là-dessus, il y en a le trois quarts qui sont pour le retour à l'école lundi, mais il y en a le quart qui sont contre. Et il y en a là-dedans, vous le savez, Dr. Roy, qui craignent que leur enfant contracte le virus à l'école, rapporte le virus à la maison, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents-là qui ne sont pas d'accord pour le retour des élèves en classe lundi?
Mais tout d'abord, ça ne me surprend pas du tout comme résultat parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit quand on parle à nos parents, à nos patients. C'est pas surprenant non plus qu'il y en ait le quart qui sont encore inquiets. Ça fait deux ans qu'on est tous collectivement conditionnés à avoir peur de la COVID. On peut pas du jour au lendemain avoir un lâcher-prise collectif comme ça, puis s'y conformer facilement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça risque d'arriver que leurs enfants attrapent la COVID à l'école? Bien certainement, avec un variant qu'on croit potentiellement plus contagieux que la rougeole ou certainement aussi contagieux que la rougeole. On le voit actuellement avec la vague, ça se transmet extrêmement facilement et nous devons le souligner avec ou sans ventilation améliorée dans les écoles. C'est un virus qui est très contagieux. Est-ce que les enfants sont en danger dans nos écoles? Pas du tout. Les enfants sont en sécurité. Les enfants vont possiblement l'attraper et ils s'en sortent très bien.
Mais l'attraper pour vous, c'est ça.
Très peu malade.
Non, mais quand on parle de changer notre manière de comment dire, pas juste de gérer, notre manière de penser la pandémie, vous dites, oui, il peut l'attraper, mais ça ne veut pas dire qu'il est en danger. Il faut, d'une certaine manière, séparer maintenant le fait d'être infecté et le fait d'être en danger. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, là.
Oui, c'est nouveau. Et pourtant, avec la vaccination qui augmente, c'est vrai pour les adultes, ce sera vrai de plus en plus pour les enfants. On incite d'ailleurs les parents à faire vacciner leurs enfants. Les conséquences négatives risquent d'être encore plus limitées. Il faut se ramener aussi à l'époque pré-COVID. On n'a jamais fermé des écoles parce qu'il y avait de l'influenza, de la bronchiolite, de la gastro. Pourtant, nous, dans les hôpitaux, chaque année, on voit des centaines d'enfants hospitalisés à cause de ces virus-là. On voit des enfants décédés chaque année au Québec. Pas beaucoup, heureusement, mais on en voit décédés de l'influenza chaque année, entre 1 et 3 décès par année. Donc ça, ce sont des choses qui existaient avant, ce sont des choses qui sont toujours malheureuses, mais le risque très, très, très minime fait en sorte qu'on a continué à vivre à travers les âges, à travers les siècles, malgré les virus qui se promènent, parce que oui, il faut apprendre à vivre avec ces virus-là. Mais actuellement, avec les données, avec le variant qu'on a et les variants précédents même, les enfants sont peu ou pas malades de la COVID. Il y a évidemment des formes plus sévère. Il y a des complications qu'on espère le moins fréquentes possible. Et les données préliminaires, on n'a pas encore les publications officielles, mais on a quand même des données préliminaires du CDC qui nous disent que les enfants vaccinés ont encore moins de risques, probablement, oui, d'avoir ces conséquences-là. Donc, je pense qu'il faut se rassurer. Il faut surtout voir que le risque, après 2 ans, de continuer comme ça pour nos enfants, ce n'est plus une hypothèse, c'est réel. Leur développement est entravé, leur humeur, leur avenir est hypothéqué. Donc, je pense que, comme société, on doit prioriser l'avenir de nos enfants. Puis oui, ça se peut qu'il y ait de la transmission de l'école vers les parents, vers éventuellement les hôpitaux adultes, oui, mais je pense que cette portion-là de contribution à la contamination collective, on doit la tolérer. On ne peut plus envisager dans nos outils pour combattre la pandémie, on ne peut plus envisager la fermeture des écoles, et je pense que c'est la direction que le gouvernement prend avec raison.
Dr. Marie-Claude Roy, pédiatre, membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Merci, c'était très clair, docteur.
Ça a été un plaisir, au revoir.
Alors là, je vais vous présenter, d'une certaine manière, l'autre côté de la médaille. Les personnes qui sont à l'hôpital et qui vont les soigner, les patients qui vont arriver avec l'Omicron, puis qui l'auront contracté parce qu'un enfant leur aura transmis. Il y en aura des cas comme ça. Ça, il faut l'accepter, là. Si on retourne les enfants dans une classe, il va y avoir des élèves qui vont l'attraper puis qui vont le transmettre. Et ces patients-là, il y en a qui vont se retrouver à l'hôpital. Et parmi ceux et celles qui vont les soigner, il y aura la docteure Amélie Boisclair, interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Docteur Boisclair, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça vous a convaincu l'argumentaire de la docteure Roy, qui d'une certaine façon dit « la santé mentale de nos enfants doit prévaloir ».
Bien, d'abord, là, tu sais, ce qui est important de savoir, c'est que pour moi, là, l'école, c'est primordial. Fait que, tu sais, puis j'oserais jamais remettre l'opinion des pédiatres sur l'importance de l'école. Tu sais, c'est outre l'éducation, là, c'est un filet social, ça a plein d'avantages sociaux, ça. On a tous le même objectif, je pense, pour nos jeunes. OK? Ceci dit, là, on peut pas oublier le fait qu'on est dans une cinquième vague en pleine période de délestage. OK? Puis c'est sûr que c'est une position impossible. Là. Je suis pas en train de vous dire que je veux pas que les écoles ouvrent, mais j'aurais aimé ça savoir que justement, parce que l'école est primordiale, on a mis tous les outils pour minimiser les fermetures. Les enfants vont être en contact avec des professeurs, avec du personnel de soutien, avec des parents qui sont peut-être immunosupprimés, qui sont peut-être pas adéquatement supprimés. Puis moi, présentement, là, on ne sait pas où est-ce qu'on va les mettre. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est une question encore là de au niveau de la préparation, que moi j'ai un bémol, c'est que moi je parle beaucoup de l'importance de l'expertise pour offrir des soins de qualité. Ben, en éducation, c'est la même chose pour moi. C'est que minimiser les absences chez les profs parce qu'on a minimisé les risques pour eux de partir, ben c'est un favoriser un enseignement de qualité. Tu sais, les enfants, ils vont à l'école pour avoir un enseignement de qualité, oui, pas juste pour être placé. Puis c'est là que je trouve dommage, parce que c'est comme si on n'avait pas mis tous les outils qu'on avait, parce que justement, l'école, c'est essentiel, et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas considéré comme tel. Ce que la docteure avant moi disait, c'est vrai, les enfants ont souffert. Ça, je peux pas le nier. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour améliorer leurs conditions, pour que ça marche? Et on peut pas non plus faire abstraction de la situation actuelle. On n'est pas en creux de vague. Fait que c'est là que c'est difficile, parce que je ne pourrais jamais dire que l'école, c'est pas important. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça
mais vous êtes inquiète, docteur Boisclair.
Oui,
vous êtes inquiète parce que vous avez peur qu'avec l'ouverture des classes, il y ait à nouveau une augmentation des hospitalisations. Alors qu'on observe une diminution depuis 3 jours, je le répète, diminution des hospitalisations nettes, c'est-à-dire la différence entre les personnes qui rentrent à l'hôpital et les personnes qui sortent, ça diminue depuis 3 jours. Ce que vous craignez, c'est que ça reparte vers le haut.
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que ça diminue à un seuil où on est capable d'interrompre, d'arrêter faire du délestage, de pouvoir reprendre nos activités, de se demander où est-ce qu'on empile les gens, on a beaucoup de travail à faire, là.
On ça empile les gens, docteur Boisclair, on empile bien, les gens, là?
C'est une façon de parler, là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est un domino à chaque fois, les gens qui rentrent à l'hôpital.
Mais vous êtes pleine au bouchon, là. C'est ça que vous me dites, là. Vous êtes pleine au bouchon. Vous n'êtes plus capable d'en prendre, là.
Bien, puis malheureusement, tu sais, c'est pas les enfants contre les adultes. C'est pas vrai, ça. Je veux dire, dans mon discours, c'est pas les enfants contre les adultes. C'est une priorité, l'école. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on a. Tu sais, c'est sûr, je peux pas revenir en arrière, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites pour minimiser les impacts sur les enfants puis sur toutes les gens qui tournent autour d'eux pour favoriser l'école de façon sécuritaire.
Vous alliez me donner un exemple?
Bien, je veux dire, déjà, là, si on venait à la base puis qu'on reconnaissait que c'est un mode aérosol. OK. En Ontario, il y a eu des échangeurs d'air qui ont été installés. Il y a une éducation qui se fait sur quand est-ce ouvrir les fenêtres. Puis quand on parle à des experts, c'est pas vrai qu'il faut ouvrir les fenêtres grandes ouvertes puis qu'ils fassent moins 20 dans les classes, là. Fournir des masques de qualité aux profs. Les tout petits, hein, les moins de 11 ans qui sont encore dans leur première dose, certains qui commencent la deuxième dose. Je dis pas encore là, tu sais, c'est très inconfortable, parce que je le sais, je suis intensiviste adulte, mais la réalité, là, c'est que les soins intensifs sont pleins. OK? Les soins intensifs sont pleins, puis malheureusement, ça, c'est un goulot d'étranglement sur tout le reste. OK? Et en même temps, c'est vrai que l'école est primordiale.
On est comme dans un dilemme, Dr Boisclair, c'est le moindre mal, hein? Ou autrement, le mal nécessaire. Il n'y en a pas de solution facile. C'est fou depuis le début de cette pandémie. On est toujours pris entre. Pas qui c'est qui disait ça, là. Faut choisir entre la peste puis le choléra, là. Tu sais, c'est comme.
Là, je suis pas dans un débat où je suis en position de faire la contrepartie de ce que l'expert en pédiatrie est en train de faire. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai un contexte différent.
Ouais.
Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est vrai, là, qu'il faut réfléchir sur le long terme de cette crise-là. Mais...
On augmente les risques d'avoir des patients infectés dans les hôpitaux. C'est ça qu'il faut.
Où on est en train d'annuler des chirurgies.
Voilà.
Où on reporte le traitement, où on diminue la qualité de nos soins.
Voilà, Dr Amélie Boisclair, interniste intensiviste. On a bien compris votre dilemme, Amélie. On a très bien compris votre dilemme. Je rappelle que vous pratiquez à l'hôpital Pierre Legardeur. Merci.
Au revoir.
Alors, résultat final, notre sondage, pour ou contre un retour à l'école, pas compliqué, trois quarts, un quart. Trois quarts favorables, un quart défavorables. C'est ça, le score. À cette heure, on s'en va à la pause, au retour, je vais vous donner en primeur les résultats d'un sondage qui va sortir dans l'actualité un petit peu plus tard aujourd'hui, dans le magazine L'Actualité. Vous allez voir, la CAQ perd des plumes. Puis préparez-vous, là, je vais vous poser une question à propos de la CAQ. Puis la réponse, ça va être oui ou non. OK, ça va être oui ou non, mais attendez de voir la question après la pause.